Bienvenue dans ce premier épisode de Finanthrope, le podcast qui remet l'humain au cœur de la finance. Un podcast Investir Éthique. Pour ce premier sujet, je vous propose que l'on s'intéresse à l'existence même de la finance durable. Car oui, ce concept est souvent critiqué et beaucoup de citoyens sont convaincus que la définition même de la finance empêche cette discipline d'être durable. Je vais tout de suite m'atteler à affirmer le contraire. Oui, la finance durable existe, mais non, elle n'est pas dominante. Si on suit ce principe, ça veut dire que plusieurs finances cohabitent. Il n'existe pas de système homogène, mais bien plusieurs systèmes qui se croisent, interagissent les uns avec les autres, parfois s'opposent, sont en tout cas forcés de cohabiter. Une fois que cela est dit, brisons un deuxième tabou qui est celui d'une histoire que nous nous racontons tous, professionnels du secteur ou pas. Et cette histoire, elle consiste à penser, à dire, puis à croire que la finance est compliquée. Compliquée à tel point qu'il est hors de portée d'un contribuable lambda d'en saisir les subtilités. Et comme c'est compliqué, il vaut mieux la laisser dans les mains d'experts qui la gardent au chaud dans une boîte bien opaque et ne pas s'en préoccuper. Mais non, la finance n'est pas compliquée. Elle a été rendue complexe, mais la majorité de sa complexité ne sert à rien et ne crée aucune valeur. La finance, c'est tout simplement le financement d'une opération économique. Un boulanger qui va acheter de la farine à ses fournisseurs, c'est de la finance. Une famille qui fait un emprunt immobilier pour acheter sa maison, c'est de la finance. Un jeune qui encaisse un chèque pour son premier emploi, une grand-mère qui prête de l'argent à sa petite-fille pour qu'elle fasse le tour du monde, tout ça c'est de la finance. Une fois qu'on pose cette base, le système financier devient déjà moins opaque. Mais ce n'est toujours pas suffisant pour qu'il soit durable. Pour qu'il soit durable, il faut aller un petit peu plus loin. On va faire un détour vers la sociologie économique pour introduire le concept qui est aussi le titre de ce podcast, la rationalité. Il y a une théorie qui a été utilisée à la fois dans la science économique et en sociologie, c'est la théorie du choix rationnel. Le principe est très simple. Les agents économiques, donc par exemple les épargnants, vont faire leur choix selon une réflexion rationnelle qui doit forcément être la recherche du meilleur profit pour le moindre mal. Cette théorie a eu le vent en poupe surtout au début du XXe siècle et devait prouver que le capitalisme était en fait en parfaite cohérence avec la nature humaine. Si ça vous semble pas naturel, c'est normal, puisque dès sa création, la théorie a été très critiquée et elle continue de l'être aujourd'hui, bien que les modèles économiques qu'on utilise encore actuellement soient fondés sur ce comportement rationnel. Cette notion a été rapidement infusée dans les domaines de la psychologie et de la sociologie, et la rationalité a été au cœur du travail du sociologue et économiste allemand Max Weber, qui est particulièrement intéressant pour notre sujet puisqu'il s'est intéressé à l'esprit du capitalisme et à son éthique. Dans la pensée weberienne, la création du capitalisme est due à l'apparition d'une nouvelle éthique économique, qui est rationnelle, et qui est caractérisée par la volonté de contrôle et de domination de la nature et des hommes. Cette rationalisation du monde, qui a mené à la création du capitalisme, elle est liée pour Weber au désenchantement du monde. Ce désenchantement, il correspond à la fin du Moyen-Âge, à la disparition des croyances en la magie et en l'action de Dieu dans le monde. En gros, ça veut dire que le capitalisme est né d'une nouvelle éthique qui a émergé parce que le monde changeait. Quand l'ouvrage de Weber a été traduit en français, Jacques Ellul, qui était théologien, a ajouté une dimension à cette idée de désenchantement qui est très intéressante. C'est la désacralisation de la nature. Avec cette désacralisation, on n'a plus besoin de respecter la nature et elle devient donc, je cite, « un domaine livré à l'homme pour être exploité ». Aujourd'hui, on assiste à nouveau à une phase de désenchantement, avec cette fois-ci un processus de resacralisation du vivant. En gros, on réalise que la nature n'est pas infinie et que son exploitation a un coût élevé pour l'humain. Et cette resacralisation, elle marque l'émergence d'une nouvelle forme de rationalité, toujours capitaliste, qui estime que pour perdurer, le système doit prendre en compte les problématiques environnementales. C'est pour ça que certains investisseurs aujourd'hui font le choix d'écarter certaines entreprises trop polluantes parce qu'elles pourraient ne plus être compétitives si de nouvelles régulations environnementales émergeaient ou parce qu'elles posent un risque trop grand en termes de réputation. Je vous propose de faire un dernier détour vers un autre sociologue plus moderne qui est l'américain Harrison White. Ce sociologue, il est à l'origine d'une approche nouvelle des marchés qui consiste non pas à voir un marché comme une somme de vendeurs et d'acheteurs, mais plutôt comme la somme des volontés de plein d'acteurs économiques qui peuvent être des clients, des fournisseurs, des employeurs, des commerçants, etc. Pour faire simple, son modèle prend en compte autre chose que la valeur économique, puisqu'il admet que quelqu'un puisse acheter un bien à telle personne parce qu'elle l'apprécie, parce que le bien est produit localement, ou pour d'autres raisons qui ne sont pas la maximisation de son profit personnel. Cette vision du marché de Harrison White, elle recoupe parfaitement notre idée présentée plus tôt d'un système financier dans lequel il existerait des systèmes alternatifs et notamment durables. La finance durable, elle existe aujourd'hui tout simplement parce que certains individus, certaines entreprises, certains investisseurs veulent qu'elle existe, parce qu'ils exigent de leurs partenaires des conditions non financières qui la font exister. Si on pense à la finance durable comme à une alternative, on peut considérer qu'un épargnant responsable jouera le rôle d'un activiste dans ce système et pour ce système. Par exemple, en s'intéressant aux pratiques de sa banque, en exigeant des fonds responsables dans son assurance vie ou tout simplement en s'intéressant au sujet en parlant autour de soi, chacun peut jouer le rôle d'activiste. Les individus ne sont bien sûr pas les seuls à devoir changer. Mais pour que le système change plus vite, il faut que chaque agent de ce système tende vers une alternative. Cette alternative, elle existe déjà et elle est de plus en plus impossible à éviter, même pour les agents les plus rationnels de notre système. Aujourd'hui, ce sont les États qui sont les plus en retard, ce qui est plutôt en cohérence avec l'émergence de dirigeants libéraux qui prônent un État faible et une régulation venant du marché. Alors dans ce cas, faisons plier le marché, faisons de ce système durable le système financier dominant pour qu'il n'y ait plus seulement une finance durable, mais bien que la finance soit durable. Pour conclure cet épisode, je souhaite soulever une nuance qui existe entre finance durable et développement durable. Pour moi, le développement durable, c'est un modèle de croissance qui est notre modèle actuel, mais même dans un nouveau monde qui n'adopte pas ce modèle, on aura besoin de financer l'économie et la finance durable aura donc sa place. La réduction de nos besoins à l'essentiel, ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode qui s'intéressera au minimalisme. À très bientôt.